Osmose Radio.
Osmose.
La web radio.
Social Club.
Olé, olé.
Social Club. El Social Club. El Social Club.
Social Club.
Social Club.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est le Social Club, comme tous les lundis des fois, quand on a envie, une fois sur deux en fait, voilà, ben aujourd'hui c'est un bonjour, c'est un bon lundi. On est en compagnie de nos amis citoyens du monde, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, puisque c'est un spécial citoyenneté, avec les maisons des citoyens, avec les cafés citoyens, avec notre collaboratrice, conseillère, consultante, partenaire, Anne, bonjour.
Bonjour.
Ne vois-tu rien venir, comme dirait Louis Chédid.
Anne ma sœur.
Voilà, très bien. Alors les feuzeux, les diseux, tout ça, ça se passe bien?
Oui, c'est formidable. Une fois par semaine, on se réunit, les jeudis, toujours chez Françoise, et on organise des événementiels pour le Vaucluse, mais aussi pour la région PACA.
Et puis un peu sur Paris, parce que je vois voilà. The Artist là-bas, non, c'est Montreuil.
The Artist aussi, oui. c'est à Paris, dans le 19e.
Dans le 19e, oui. On aura peut-être même des invitations un jour,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est ça.
Super, on aime bien parler avec nos amis parisiens, tout comme avec les Chinois ou les Américains qui nous écoutent à travers le monde, puisque vous le savez, nous sommes web, yes. Ah. Invité aujourd'hui par Anne dans ce Social Club un peu citoyenneté, voici Nicolas.
Nicolas,
oui, mon... Montanard, bonjour Nicolas. On vous a vu sur Facebook, vous êtes un citoyen également.
Comme beaucoup de gens,
oui, c'est pas mal. Alors vous occupez, enfin vous êtes de la maison des citoyens à Aubagne.
Aubagne-la-Ciotat, tout à fait. Pour l'instant, je n'ai fait que participer à des cafés citoyens en Provence, c'est-à-dire Avignon, Marseille, Toulon. Et j'ai comme projet d'en organiser à Aubagne-la-Ciotat et même à Aix-en-Provence.
C'est pas mal.
En coopération avec d'autres personnes, évidemment.
D'accord. Alors, comment ça prend ces cafés citoyens? Il y a du monde un peu qui brasse, comme on dit
Ça brasse.
Non, mais c'est pour savoir, parce que c'est pas évident non plus, hein, comment on appelle ça, de fédérer autour de ce thème de la citoyenneté.
Ouais. Moi, je parle de citoyenneté en tant qu'animatrice de Maison des Citoyens, mais les personnes viennent souvent avec des idées hyper précises ou des projets très pointus, et ils nous demandent de les aiguiller sur ces projets-là. Ensuite, il y a des personnes, effectivement, qui se posent des questions de la place du citoyen au sein du système français, politique, social, enfin tout le truc un peu intellectuel et médiatique. Mmh. Et puis après, il y a aussi des étudiants qui viennent par curiosité. Et voilà, et ça fait toujours à peu près entre 7-10 personnes chaque jeudi à venir se fédérer autour du noyau dur, puisque maintenant on peut dire qu'on est 6 dans la Maison des Citoyens à s'unir pour travailler tous ensemble, et puis aussi participer à cette grande aventure qui est la Maison des Citoyens.
C'est une belle aventure, en effet. 6, on peut les citer, peut-être leur faire un petit coucou. Ils doivent nous écouter, j'espère.
Alors je fais un petit coucou à Sabine, à Anne, à Claudie, à aussi Bernard, alias Bertrand de temps en temps, et aussi à d'autres personnes qui se reconnaîtront.
Très bien. Alors vous êtes toujours plein de mots, il y a plein d'originalité hein, chez les citoyens, les feuzeux, les diseux, tout ça déjà c'est des mots un peu originaux. Mais alors fédérer les colères bienveillantes, j'aime bien, là, c'est écrit en gros sur le petit papier que tu m'as amené ce matin. Ça veut dire quoi ça, les colères bienveillantes? On peut avoir des colères bienveillantes?
Je crois que oui. Enfin moi j'en ai une, colère bienveillante, qui commence à se prendre bien en forme. Donc du coup, alors les colères, ben, c'est tout simplement être en colère contre quelque chose, mais au lieu d'être...
Exemple, quelle est ta colère bienveillante du moment?
Alors,
oui, c'est comme ça, on a quelque chose de concret là.
Bon, j'en ai plein.
Alors, tu es en colère contre quoi?
Alors, à l'heure actuelle, en tant que représentante de parents d'élèves, ce qui me casse les pieds, c'est qu'on a posé des projets et au fait, ça a été récupéré. Donc ça me casse les pieds.
Alors vous, les parents d'élèves, vous avez posé des projets qui ont été récupérés.
Ouais. Dans une école à Avignon. Et au fait, ça a été absolument récupéré. Donc ça me casse les pieds.
D'accord.
Voilà.
C'est bon, elle a poussé son petit cri. Mais quelque part, des projets qui sont récupérés, ça veut dire que c'est des bons projets.
Voilà, c'est ça l'aspect positif.
Sinon,
aussi.
Faut passer par l'INPI, la SACEM, tout ça. Enfin, tu le déposes, ton projet. Comme dirait Coluche, hein, c'est le premier qui arrive à la SACEM qui a gagné.
Ouais, c'est,
donc, c'est un peu comme ça. Et donc, ces projets, ça concernait quoi? Des activités extrascolaires.
Oui, c'est ça. Dans le cadre d'extrascolaires, des mamans se positionnaient pour être bénévoles sur un projet d'atelier. Au fait, ça s'est pas fait.
D'accord.
Mais comme par hasard, ça se retrouve ailleurs. Donc coup, c'est ça qui est pas mal.
Ah bah ça arrive, tu sais, dans le milieu artistique aussi ou culturel. Ça nous arrive régulièrement. Mais pour ça, il faut le prendre avec le sourire.
Voilà.
C'est toi qui nous avais permis de rencontrer également ici dans ce même social club, l'école démocratique.
Oui.
Ça, c'est un très beau projet.
C'est un très beau exemple.
Il faudra qu'on les re-reçoive d'ailleurs. Ouais. Je te redemanderai leurs coordonnées pour
D'accord.
voir après, au mois de janvier, février, un peu où ils en sont, comment ça avance. Nicolas, pour toi,
oui.
La citoyenneté alors, Kazakh.
tout simplement, j'ai l'impression, je ne suis pas le seul, que nous n'avons pas droit au chapitre. Alors, c'est bien joli de voter, mais souvent, les promesses, tout ce qui est campagne... Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de promesses, et c'est pour ça qu'on les appelle les 10 œufs, comme dans les Bouches-du-Rhône, les bouches.
D'accord.
et les 10 œufs, par opposition aux faiseux, les makers, ceux qui sont dans le faire citoyen.
Il y a ceux qui parlent, en fait.
Comment?
Qui brassent de l'air. Il y a ceux qui parlent, donc les 10 œufs qui brassent de l'air, puis il y a ceux qui agissent.
C'est pas si binaire que ça, parce que je crois que nous parlons tous et n'agissons pas, mais les politiciens actuels, il y a beaucoup de comédiens, je trouve.
Ouais, ils ont un don inné pour ça, peut-être, quelque part. Mais pas tous. Il y en a qui annoncent des choses, enfin, on peut pas généraliser, évidemment.
Non.
Il y en a qui annoncent des choses et qui les font.
Oui,
on ne donnera pas de nom.
Mais
heureusement, sinon on n'avancerait pas. Notre société serait carrément chaotique. Mais c'est vrai qu'on voit en ce moment des choses un peu étonnantes.
Oui.
Même Trump, là, aux États-Unis, il a claironné des tas de choses. Mais on voit tout de suite qu'il ne pourra pas y arriver. Quoi. Même lui est en train de changer avant même que ça arrive.
Ouais, ça fait peur.
Je ne sais pas si ça fait peur, mais c'est quand même un très bel exemple. C'est une espèce de loupe, un effet grossissant de ce que vous êtes en train de dire là. C'est des mecs qui annoncent des choses pour se faire élire. Puis après, on verra bien, mais je pense que ça sera impossible pour lui de virer tous les musulmans des États-Unis, par exemple. C'est quand même incroyable, même de se faire élire sur ce, sur ce genre de thème.
Il y a eu une quinzaine d'années, il y avait Monsieur Buisson. Là. Enfin, lui, il voulait virer les homos et les talibans, donc lui aussi, il a créé son petit. Ça...
Heureusement, ça. Bon, regardez, on en parle même plus.
Quand même.
Voilà, il n'existe plus pratiquement, lui. Non, où il existe encore. Ce monsieur Bush, là.
Ah non, il a disparu de la circulation.
Il a disparu de la circulation, bien sûr, heureusement. Nous, on n'en est pas à ce niveau-là. Alors, on a parlé, j'ai annoncé les maisons des citoyens, donc des Bouches-du-Rhône, représentées par Nicolas, Aubagne, la région d'Aubagne.
Oui, j'habite à Aubagne et j'aimerais en organiser, mais pour l'instant, je préfère. Mettre en valeur la personne chez qui je suis allé à chaque fois, à chaque fois dans des endroits différents, ou des brasseries, ou chez quelqu'un, qui s'appelle Karine, et qui organise les cafés des citoyens de la Maison des citoyens de Marseille. Et elle a organisé plein depuis au moins début octobre, et nous avons même reçu Alexandre Jardin au Hard Rock Café il y a pile 2 mois, le 19 octobre.
Au Hard Rock Café.
Oui, à Marseille.
Voilà, bah c'est lui qui a un peu lancé toutes ces histoires, non? C'est ça?
Le Hard Rock Café?
Non, du Jardin, enfin Alexandre Jardin,
oui.
Du Jardin, ne pas confondre.
Oui, le romantique.
Citoyens, tout ça.
Le romantique.
Oui, c'est un peu lui, non?
Comment?
C'est lui qui a lancé ces histoires.
Oui, tout à fait.
De
c'est lui,
de
Diseux, la
d'ailleurs,
figure
c'est très
de
littéraire.
Proue, tout à fait.
Feuzeux, Diseux, on voit que c'est un mec qui écrit des bouquins quand même.
Tout à fait.
Après, il y a d'autres cafés citoyens quand même qui sont animés par d'autres figures de proue. Mais effectivement, Alexandre Jardin est quand même un bon hygiaphone pour les cafés des citoyens.
Bon, il plaît pas à tout le monde apparemment. Ruquier n'a pas du tout apprécié, hein, si j'ai bien compris. Voilà, on le voit ici. D'accord, ce sont nos amis qui arrivent. Alors, ces maisons des citoyens... Elles sont virtuelles en fait, parce que on a beau chercher Avignon à droite à gauche, on ne trouve pas de maison concrète en pierre sur laquelle il est marqué maison des citoyens. Non.
Non.
Non, peut-être dans d'autres régions, il y a une maison de la citoyenneté qui existe.
D'accord.
Mais des maisons de citoyens qui devaient déjà avoir ce nom-là avant. Mmh. Mais sinon, oui, c'est virtuel. C'est...
Ce sont des associations.
C'est, ce qui est bien, c'est pouvoir faire de l'itinérant finalement. Mmh. D'être dans un tiers-lieu, après une autre fois dans un bar associatif, ou dans un espace de coworking, ou dans un café lambda, ou alors chez quelqu'un.
Les citoyens d'aujourd'hui sont
malades. Peut-être une auberge jeunesse, j'en sais rien. Peut-être ça peut se faire dans une auberge, mmh. dans un champ. Mais ça, c'est peut-être pas la...
C'est pas la saison.
Voilà, c'est ça.
Anne, tu voulais dire quelque chose?
Non, c'était
aussi,
simplement pour préciser, Nicolas. C'est modulable, en fait. Un café des citoyens, ça peut se faire chez soi, ça peut se faire chez un copain, un café, un peu de partout, quoi, au fait.
Tant qu'il y a du café, une table et des citoyens.
C'est ça.
Tant qu'elle a la chaleur humaine et des idées.
Ouais. Donc Avignon. Avignon, ça se passe chez Françoise. Mm-hmm. On l'a dit tout à l'heure, on le redira jamais assez. Je ne me rappelle plus la date, le jeudi, je crois.
C'est le jeudi, mm-hmm. entre midi et 14h.
Tous les jeudis.
Tous les jeudis.
On vient comme ça, avec sa bonne volonté et sa bonne humeur.
Oui, tout à fait. Et puis on discute, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on peut s'apporter les uns les autres. Et puis on essaie d'avancer tous ensemble.
Tout ça
avec
ensemble.
Bon.
Non, mais c'est
sympa. C'est l'esprit.
Bah, l'idée, c'est ça. On ne peut pas être citoyen tout seul.
Non.
C'est quelque chose qu'on partage, la citoyenneté.
Ça doit venir de plusieurs personnes en même temps qui portent une voix, en fait.
Et puis des projets aussi, des envies.
Ouais,
des...
On a parlé de colère tout à l'heure. Alors, bon, le mot bienveillant, au bout d'un moment.
Colère bienveillante, attention.
J'ai du mal avec le mot bienveillant, à force. Mais on va dire que. J'aime bien cette phrase de Mandela. Mmh. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Bon, c'est un peu exagéré parce que ça ne s'applique pas à tous les domaines. Quand nous votons pour des personnes, il y a des promesses qui sont non tenues et il y a des inégalités. Et finalement, ces personnes qui sont au pouvoir, les élites, sont hors sol et ne connaissent pas la vie de leurs concitoyens, mmh. ne sont pas là sur le terrain vraiment, ou alors ils font de la comédie.
Ouais, puis on le voit régulièrement hein, dans certains projets de loi, notamment pour les jeunes, des trucs qui sont décidés mais qui correspondent pas, et qui font que tous les étudiants descendent dans la rue, enfin mettent une pagaille pas possible, parce qu'effectivement on pense à leur place.
Exactement.
Le citoyen d'aujourd'hui en a marre de ça, en fait. C'est ça qu'on essaye de dire, ou de plus en plus, quoi. Elle a plus en plus envie de prendre part à la vie politique et à la chose publique.
Je sais pas si ça vient moi de parler.
Ouais,
mais alors, sans parler de se présenter au présidentiel, parce que moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Il y a plusieurs courants qui existent de la transition citoyenne. Enfin, j'en fais déjà partie. Donc, Alternativa, Attaque, Colibri. Il y a plusieurs autres mouvements qu'on appelle horizontaux, hétérodoxes, je dirais, pour s'opposer à la doxa.
C'est très technique tout ça.
Comment ?
C'est très technique tout ça.
Je devrais doxa, peut-être employer notre jargon, mais oui. Tout simplement, il y a eu les Nuits Debout. Donc, à Nuits Debout, il y a eu l'envie de faire autre chose que de subir. Alors, ou on subit ou on sublime, j'ai l'impression.
Ouais. Mais ils sont où aujourd'hui ?
Nuits Debout, ça existe toujours.
D'accord.
C'est juste que les médias ont décidé que c'était fini.
On n'en parle plus, oui, c'est ça.
Les médias ont décidé.
C'est un petit peu ça. Le fait de se présenter à une élection présidentielle, on a parlé de Colibri, Rabhi l'a fait il y a quelques années. Mmh. Et finalement, il n'a jamais été élu. Je ne pense pas qu'il était même question qu'il soit élu. Mais ça lui a donné un espèce de vitrine, enfin une espèce de coup de projecteur. Et ça a propulsé son mouvement Colibri quand même.
J'ai l'impression.
J'en parlais avec lui il y a quelques temps, et voilà, ce qui retient de cette élection, cette présentation à l'élection présidentielle, c'est la grosse publicité que ça lui a fait. Qui lui a permis justement de mettre en avant ses idées, et voilà.
Je le connais pas personnellement, donc.
Ah bon, il est venu plusieurs fois à Avignon, on peut le croiser, enfin, comme ça. Okay. C'est pas quelqu'un de méchant.
Mais après, si on parle des élections, etc. C'est simplement faire remonter les informations aussi. Enfin, il faut le prendre un petit peu comme ça. Je pense que chaque candidat qui veut être dans les élections pour être élu à la présidentielle et tout, c'est pas qu'elle porte une parole sainte, c'est que c'est un positionnement de certains groupes, mais qui ne représente pas tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens à l'heure actuelle qui n'ont pas envie de s'engager en politique, tout simplement parce que pour eux, c'est soit fini, soit ils ont en tête un autre système. Et je pense qu'aussi cette parole doit être prise en compte.
Puis il y en a quand même énormément qui s'en foutent.
Il y a aussi
il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qui vont voter un peu à droite ou un peu à gauche en fonction de l'humeur du moment, mais qui n'ont pas envie de s'impliquer dans la vie.
Nous sommes vraiment obligés d'élire quelqu'un?
Apparemment oui, là, pour l'instant. Ouais. On est encore obligés. Mais de toute façon, si on le faisait pas, on ferait quoi?
Travailler ensemble, co-construction, c'est possible aussi.
C'est un petit peu le thème de vos cafés citoyens de temps en temps. C'est également l'objet de Monsieur Bellon à qui on va téléphoner tout à l'heure avec son association pour une constituante, dont l'objectif est justement de réécrire ou d'écrire une constitution.
Et en plus, c'est une question qu'on se pose tous les jeudis. Est-ce qu'il faudrait faire de l'éco-construction ou est-ce qu'il faut faire de la position verticale? Moi, je dis qu'il faut faire un petit peu des deux pour l'instant, parce que les uns ne sont pas prêts à recevoir l'éco-construction et les autres ne sont pas prêts à lâcher prise.
L'éco-construction.
C'est ce que j'allais dire, c'est quoi l'éco-construction?
Tu veux construire des maisons de castor? J'ai pas compris.
Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, par exemple, c'est construire tous ensemble un système politique différent. Donc l'éco-construction.
Ah, une sorte d'écosystème en fait.
Voilà.
D'accord.
Ah,
okay.
Oui. Contre l'écosystème, l'écosystème.
C'est ça.
Voilà, d'accord. Bon, bah, écoutez, on va faire une petite pause musicale. Hein.
Oui.
On va respirer un petit peu. On va retrouver juste après André Bellon avec l'association pour une constituante. C'est le Social Club. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un Social Club spécial Maison des Citoyens. Eh ben, ça s'arrête brutalement, ce truc. On est dans le Social Club. Je pensais parler sur la fin de la musique, mais là, tout s'est arrêté nettement. Un Social Club spécial autour de la citoyenneté, autour des maisons citoyennes et autour des... Maisons des citoyens, puis des cafés citoyens qui existent dans la région. Il y en a pas mal, hein, quand même. Vaucluse, Bouches-du-Rhône...
Ouais. Ça bouge pas mal.
Il y a un endroit où on peut retrouver, une carte interactive, ce genre de choses.
Alors, sur la maisondescitoyens.fr, effectivement, il y a une carte. Après, sur les autres styles de café des citoyens, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, les nôtres, Maison des Citoyens, maisondescitoyens.fr, vous avez une jolie carte de France avec tout...
Cartographie.
Voilà.
Oui.
C'est ça.
Avec même un chiffre, 62 014 personnes dans la maison en ce moment.
Ouais, c'est énorme.
Je regarde, je suis en plein dessus là. mais ça, c'est le site global. Hein, pourquoi la maison, ce comté, écrivez-nous, rejoins les citoyens de la maison des citoyens. Donc là, on peut quand même participer. On peut trouver également les rendez-vous de la région, Avignonnaise et Aubagnaise.
Il y a un agenda de la maison des citoyens sur le site.
D'accord.
Voilà.
Alors, sur Avignon, on l'a dit, hein, c'est le jeudi chez Françoise, entre 12 et 14 heures. Du côté des Bouches-du-Rhône,
c'est tous les 15 jours, concernant Marseille. Le prochain aura lieu mercredi 21, donc après-demain. Indiqué sur la page fan, la page communautaire plutôt, de la Maison des Citoyens de Marseille.
Qui est sur Facebook.
Qui est sur Facebook, exactement.
Donc on fait quoi? On tape Maison des Citoyens de Marseille.
Bon, voilà, c'est facile. Simplement, il est affiché l'événement. C'est chez un particulier. Sinon, à Martigues, je ne connais pas la fréquence des cafés. Il y en a eu un premier le 2 décembre, ouais. Ça je sais. Mais je ne connais pas du tout la fréquence, vu qu'après elle est partie à l'étranger... Elle est thèse de l'air à côté, donc elle peut pas tout faire à la fois.
On peut pas tout faire, ouais. C'est à peu près normal. Alors, c'est sur un conseil de Anne. Mm-hmm. On a un monsieur au téléphone qui s'appelle André Bellon et qui a monté l'association pour une constituante. J'espère qu'il nous entend. André Bellon, est-ce que vous êtes là? Bonjour.
Je vous entends très bien.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien, donc. Comment se passe la citoyenneté du côté de la rue du Pré-Saint-Gervais à Paris?
Alors, d'abord, on vient de déménager, on se rend dans un autre quartier, mais enfin, c'est pas grave. Et puis, en plus, moi, je suis Marseillais, je suis resté Marseillais de cœur, alors vous voyez.
Oui, Marseillais, mais vous avez monté votre association sur la région parisienne, quand même.
Oui, oui. Oh non, c'est national, on fonctionne sur la base de cercles locaux. Il y a d'ailleurs un cercle à Avignon, il y en a à Marseille, enfin, etc. Bon, voilà. C'est pas une organisation pyramidale, hein. C'est plutôt un réseau, voilà.
D'accord. Et pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est l'association, comment vous l'avez montée et pourquoi vous avez créé cette association pour une constituante?
Alors, pourquoi on l'a créée? Bon, je pense que comme beaucoup d'autres en France, je vous entendais là avant, parler des cafés citoyens, des maisons de citoyens, etc., etc. Bon, si tout cela se développe, c'est parce qu'il y a quelque part le sentiment chez des citoyens de plus en plus nombreux que ça va pas, qu'on les prend pas en compte, que la démocratie n'est plus qu'un mot, et donc le besoin de retrouver des réseaux sociaux, des organisations qui donnent la parole aux gens, et qui prennent en compte leurs aspirations, comme c'est la moindre des choses dans un système qui se veut démocratique. Voilà.
D'accord.
Alors, on fait partie de ceux qui se sont posés cette question. Alors, on se l'est posé à notre manière, comme d'autres le sont posés d'autres façons.
Alors, votre manière, c'était quoi, justement?
D'abord, la date est importante, c'est après le référendum de 2005.
Qui a marqué quand même... c'est une pierre blanche, hein, ça. C'est une date dont tout le monde parle.
Je pense personnellement, et je suis loin d'être le seul à penser ça, que c'est une date qui marquera dans l'histoire, ce sera une rupture. C'est-à-dire, c'est le moment où, alors que tous les analystes officiels, des gens dits sérieux, vous voyez, disaient, bon, il est évident que les Français vont répondre oui, ça va de soi... Soit parce qu'ils sont européens par principe, c'est-à-dire ils acceptent n'importe quoi du moment qu'on leur dit que c'est européen, soit parce que, comme ils comprennent pas très bien le texte, ils font confiance à d'autres. Voilà, en gros. Hein, bon. Or, il y a eu un vrai débat, moi j'y ai participé, j'ai fait la campagne du non, j'ai vu des salles absolument incroyables. Ah,
c'est ce que...
Je cite toujours Limoges, 1% de la population.
Non mais c'est vraiment ce qu'on retient de cette période du mois de mai 2005, c'est la mobilisation pour expliquer ce qui était ce traité.
Ah oui, une mobilisation remarquable, un vrai mouvement populaire. Et ensuite, ben vous connaissez la suite, c'est-à-dire ce déni de démocratie qui a consisté à faire passer le même texte sous des formes un peu amendées. Bon, la suppression du mot constituant, déjà, ça, mais c'est à peu près le changement le plus important. Et donc, de faire passer contre la volonté populaire. Voilà.
Donc ça
et
vous
donc,
a...
Et donc, là, on s'est dit, ce n'est plus possible. Après le vote, on s'était dit qu'il fallait maintenir l'unité des citoyens qui s'étaient manifestés, de trouver les mots d'ordre pour le maintenir, vous voyez. On avait pensé appeler à la démission de Chirac, puisqu'il appelait à voter pour Louis, il aurait été logique qu'il s'en aille, comme De Gaulle en 69, par exemple. Dissolution de l'Assemblée nationale, puisque 93% des députés étaient pour Louis. Bon, il n'y a rien eu de tout ça, et on s'est dit, il y a une solution, c'est de donner un mot d'ordre. Hein, et plutôt que d'essayer de récupérer en faisant le candidat de je sais pas trop quoi qui essayait de récupérer le vote, il faut faire un mot d'ordre différent qui est constituante. Pourquoi constituante? Parce que c'est l'acte des citoyens pour se réapproprier d'abord leur propre volonté, la réaffirmer, donc c'est un acte individuel, et c'est un acte collectif au sens où ça recrée la règle du jeu de la vie politique, de la vie publique. Et donc, ça appartient à tout le monde. Et donc, l'idée, c'est bien de ce but de réappropriation, mais par la recréation de la volonté de chacun.
En mettant un peu la...
Après, la constituante, elle redéfinit les règles du jeu. Il y en a eu 6 en France. Ça serait la 7e. Et puis voilà.
Donc en permettant à vos membres de réécrire ou d'écrire une partie de la Constitution, en fait, c'est un petit peu l'idée.
C'est de réécrire, moi je dis plutôt les règles de la vie publique. Bon, parce que la Constitution, c'est jamais qu'un texte, et c'est important.
C'est un texte important.
Fait... Oui, c'est important. Mais c'est, plus profondément, c'est tout ce qui fait la vie de la communauté des citoyens.
Donc remettre à plat des règles de vie commune.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire pouvoir en débattre, ça veut dire que c'est une question qui nous appartient, nous avons le droit d'en parler, nous avons le droit d'en débattre, et c'est à nous de le faire, parce que c'est ça la démocratie,
alors,
tout simplement.
Vous le faites comment, justement, avec vos membres? Vous réunissez régulièrement? Vous faites des
propositions? Alors, les cercles se réunissent, alors sous réserve que les cercles respectent nos statuts, c'est la moindre des choses dans des associations, évidemment. C'est-à-dire qu'ils soient attachés à la démocratie, aux valeurs républicaines, au suffrage universel, et je dirais plus généralement à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ça, on peut en parler, c'est un sujet assez large. Sous ces réserves, les cercles font ce qu'ils veulent. Voilà. Et donc, ils débattent, ils organisent leur manière d'apparaître, et évidemment, nous leur proposons des actions que chacun des cercles peut reprendre. Alors après, il la trouve intéressante ou il ne la trouve pas intéressante. Mais en ce moment, nous avons 2 actions particulières. La première, c'est une... Alors notre site, pour ceux que ça intéresse, c'est www.pouruneconstituante.fr, pour une constituante tout lié, en minuscule. Donc www.pouruneconstituante.fr.
Je mettrai le lien
sur ce site,
pour
on peut
auditeurs.
Trouver... Pardon ?
Je mettrai le lien pour nos auditeurs sur les pages Facebook et Twitter.
Sur ce site, on peut trouver notre pétition en haut à droite. Cette pétition, bon, elle correspond au moment, bien entendu. C'est remplacer la présidentielle par l'élection d'une constituante. Alors, bon, évidemment, nous n'avons pas la certitude qu'on va remplacer la présidentielle. Mais ça on n'est pas quand même complètement à côté des réalités. Il reste que le simple fait de poser la question... On vient de passer les 2000 signatures, ce qui est, pour un truc qui n'a eu aucun écho médiatique, pas mal, comme ça prouve que ça a eu une certaine diffusion.
C'est vrai que personne n'en parle, hein. Faut vraiment...
Oui, je sais, si on en parlait, on en aurait beaucoup plus que ça. Mais cette pétition a l'avantage de dire, quoi qu'il se passe, et quoi que vous vouliez voter, ce n'est pas le problème de cette pétition. Quoi qu'il se passe... Vous avez le droit de penser, vous n'êtes pas obligé de penser présidentiel. parce qu'on pense à la présidentielle. Et une fois que le président est élu, on pense à la présidentielle suivante. Et on pense jamais qu'à ça, parce que toute la vie publique tourne autour de ça. On peut penser autrement. On a le droit de penser autrement.
Et bientôt, ce sera un devoir, parce que quand on voit le résultat, c'est-à-dire un président, en fait, il bosse un an et demi, deux ans, et puis après, il se prépare à la prochaine élection.
Mais le jour où il est élu, il pense à la réélection.
Oui, voilà, c'est donc, du coup, ça limite énormément
C'est absurde, ce système. Bon, en plus, complètement personnalisé, ne laissant en plus un pouvoir total qui fait qu'il peut avoir promis n'importe quoi, il fera ce qu'il veut.
On parle de plus en plus d'une monarchie ou de quelque chose comme ça, hein,
une présidence monarchique. Incontestablement. Une monarchie élective.
Voilà, c'est un petit peu ça dont on parle beaucoup en ce moment.
Pour les auditeurs que l'histoire intéresse, j'espère qu'il y en a beaucoup d'ailleurs, la question a été posée il y a très longtemps en France, parce que l'élection du président de la République au suffrage universel a existé après 1848. Et c'est ce qui a donné lieu à l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, suivi par le coup d'État du 2 décembre et donc le Second Empire. Or, il y a dans la constituante de 1848 au moins un député qui a dit « c'est une aberration cette élection parce qu'elle va donner une monarchie élective ». Il s'appelait Jules Grévy. Il a été bien plus tard président de la République. Il a dit qu'il voulait être un président qui était garant des institutions, c'est tout, et qui n'interférait pas dans les choix politiques. C'est intéressant ce débat et cette personnalité. Donc, la question n'est pas neuve. Simplement, on en voit tous les effets malsains aujourd'hui.
Voilà. D'accord. On parle également beaucoup. Alors, vous nous dites, justement, remplacer l'élection présidentielle par l'élection d'une assemblée constituante. Mm-hmm. Ça veut dire quoi, concrètement? Qu'il n'y aurait plus de président, mais un bureau politique?
L'assemblée constituante peut parfaitement définir les pouvoirs du président.
Oui.
Ça veut dire, si les Français sont aussi attachés qu'on le dit, à un président qui a des pouvoirs quasiment monarchiques.
Bah, c'est surtout attaché à l'image de quelqu'un qui incarne la nation.
Oui, mais c'est qui incarne ça à l'extrême, pourquoi pas. Mais qui a tous les pouvoirs qu'il a, ça, c'est une autre affaire.
Oui. Hein,
si les Français y sont tellement attachés, bah, ils éliront des constituants qui y sont attachés. Personnellement, ce ne sera pas mon cas, mais je conçois qu'ils puissent être sur une autre position.
Mais après, il faut accepter le jeu de la démocratie.
Oui, on accepte le jeu de la démocratie, bon. Alors, je ne vous ai pas dit, parce que je vous disais, nous avons deux actions en ce moment importantes. Oui. Il y a celle-là, donc cette pétition. Et il y a par ailleurs ce que nous appelons commune citoyenne. Bon, il suffit de taper sur Google commune citoyenne, on trouve le site. C'est-à-dire de jumeler cette action qui est un peu, comment dirais-je, générale, hein, de remplacer la présidentielle, par une action très proche du terrain, donc sur le plan communal, surtout lorsque la commune est petite, sinon c'est le quartier. Bon. Où les citoyens créent un comité qui perdure jusqu'à la présidentielle, où ils font émerger leur, ce qu'on appelait autrefois doléances, que nous appelons maintenant exigences. Et donc rédigent des cahiers d'exigences avec, si possible, le même jour que la présidentielle, une votation qui donne valeur à ces exigences. Donc vous voyez, il y a le côté se rapprocher le plus possible du terrain par des comités très très proches de la commune, puisque la commune, historiquement en France, était le lieu de la démocratie quand même, même au Moyen-Âge. Hein. Mm-hmm. Et c'est aujourd'hui qu'elle a disparu, cette démocratie locale, sous la pression d'un certain nombre de réformes.
Pourtant, au niveau local, on voit quand même se développer... Hein,
des... Ah ben c'est très bien, c'est très très
voilà,
bien.
Des petits bureaux
bon,
de citoyens,
disons,
des comités de quartier, des choses comme ça.
Oui. Nous, ça n'est pas concurrent à cela.
Je parle qu'il y a quand même, voilà. Il commence à y avoir quand même des mouvements qui se mettent en place,
oui,
des choses concrètes qui suivent un petit peu votre idée, c'est-à-dire que le citoyen doit de plus en plus s'investir,
absolument,
prendre part à la chose publique.
Mais moi, je dirais plus s'investir, je dirais plutôt se réapproprier, vous voyez. Parce qu'il y a des termes qui se sont répandus, par exemple, démocratie participative.
Oui,
on en
parle
beaucoup.
Le citoyen
n'a pas à participer à la démocratie, il a à l'exercer. Il ne participe pas au pouvoir, il l'exerce, il est souverain. C'est d'ailleurs marqué dans notre constitution. Bon, la réalité est bien différente. Mais...
Oui, mais jusqu'à présent, c'était pas vraiment le cas. Là, on le voit petit à petit se mettre en place. Il y a même des associations qui nous proposent des réunions régulières pour écrire la Constitution ou apprendre à écrire des lois.
Oui, mais, c'est très bien. Il y a un côté éducation populaire qui est tout à fait positif en la matière. Est-ce que les citoyens réapprennent ce qu'est la démocratie, puisqu'on a cherché à leur faire oublier.
On a donc, vous me disiez, il y a plusieurs groupes, groupes représentant votre association pour une constituante sur le territoire. Ouais. Combien il y en a? On peut donner quelques endroits où les gens peuvent vous retrouver?
Peut-être, je dirais, entre 20 et 25.
D'accord. On peut les retrouver sur votre site les...
Oui, il y a une rubrique Cercle Locaux.
Cercle Locaux.
Alors, il y en a, bon, comme dans toute organisation, il y en a qui marchent très bien, il y en a d'autres qui marchent moyennement. Hein. Bon, il ne faut pas... Mais il y en a qui sont vraiment très, très actifs. Je pense Bourges, je pense Marseille, je pense Guéret, Nantes, voilà, bon, Ariège.
Oui, il y en a pas mal, hein, je vois. C'est vrai qu'il y a une petite carte interactive qui permet de toutes les retrouver sur votre site.
Oui, on peut les retrouver, oui, on a mis une carte interactive, c'est plus simple.
Parfait, ben, j'ai mes invités, mais alors je ne sais pas s'ils veulent vous poser une question, les représentants des maisons des citoyens d'Aubagne et d'Avignon.
Bonjour. Oui, bonjour monsieur, Nicolas Montanard d'Aubagne. Donc j'ai un diplôme d'ONG européen, donc, que j'ai passé l'année qui a suivi le non à la Constitution. Et la critique de mon professeur à l'époque, mon professeur de droit, c'était que le texte était inodore, incolore et sans saveur, et que personne ne l'avait lu. Enfin, je me doute qu'il y a des gens qui l'avaient lu, mais peut-être le réservaient aux toilettes ou ailleurs, mais ne le lisaient pas du tout. Et aussi également qu'il avait été préparé par l'équipe de Valérie Giscard d'Estaing, si je me souviens bien. Voilà. Après, tout ce qu'il y a dedans, après j'ai appris ce qu'il y avait dedans, vu que j'ai fait un diplôme européen une troisième année, et donc j'ai connu les piliers, etc. Mais après, je m'y suis pas intéressé. Depuis 10 ans, je m'y suis pas intéressé du tout. Mais c'est bien qu'il y ait déjà d'y réfléchir de nouveau pour le bien commun, pour la République, et pour à tout ça. Après, je suis pas spécialiste.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout très bien entendu. J'ai cru comprendre que vous aviez fait donc des études de droit européen, c'est bien ça?
J'ai appris l'histoire des institutions,
ah oui, c'est ça.
L'histoire
des institutions
européennes depuis au moins 45, et également ce qui s'était passé concernant la Constitution dans l'année 2005. Étant donné que
alors,
moi, j'ai
s'agissant de 2005...
Vous avez voté en juin 2005.
En mai 2005.
Et j'ai passé mon diplôme en 2006. Donc, c'était l'année qui a suivi. Donc, j'ai su les critiques et tout ce qui s'était passé.
Allez-y.
D'abord sur 2005. Hein. Moi, j'ai entendu un certain nombre de personnalités. Alors, j'en prends une à droite, une à gauche. Comme ça, on ne me dira pas que je fais un choix. Des gens comme Balladur ou Moscovici, qui disaient quelque chose, je caricature un peu, mais pas beaucoup, vaudrait mieux pas faire de référendum parce qu'on n'est pas sûr du résultat. Les citoyens, de toute façon, ne comprennent rien à ce qu'ils votent. Bon, j'ai entendu des choses de ce genre. Alors, premièrement, pour avoir fait la campagne du non, je dis honnêtement, ça, ce n'est pas vrai. Moi, je suis tombé sur des salles où beaucoup de citoyens avaient lu le traité, ou du moins des parties substantielles, et savaient très bien pourquoi ils votaient non. Bon, je dirais même sous forme caricaturale, au début de la campagne de 2005, il me semble que les partisans du non avaient un peu plus lu le texte que les partisans du oui. Mais bon, je ne voudrais pas aller trop loin dans ce sens. Ensuite, ce résultat, de toute façon, il est particulièrement significatif quand même, 75% de votants, 55% de non. Alors qu'on nous disait que les Français ne s'intéressaient pas à la politique, etc. Quand ils ont un enjeu, qu'ils voient l'enjeu, ils s'y intéressent. Bon. Donc c'est une nouveauté. Troisièmement, on a cherché, et en particulier sous la pression de Giscard d'Estaing, à nous faire passer ce texte comme une constitution européenne. Alors, on peut discuter à perte de vue de savoir s'il faut une constitution européenne chère à des gens comme Jacques Attali. Je dis simplement qu'il n'est pas question qu'on supprime les peuples des États membres sans leur avoir demandé s'il souhaite être dissous dans un peuple européen qui, à mon sens, n'existe pas aujourd'hui. Il peut exister demain. Aujourd'hui, il n'y a pas. Bon, voilà. Il n'y a pas... Il y a des peuples européens qui ont envie, d'ailleurs, de faire des choses ensemble. Mais il n'y a pas un peuple européen. Et c'est sur cette base, on cherchait à nous faire passer cette dissolution des peuples des États membres sans nous le dire. Et ça, c'est parfaitement inadmissible. C'est d'ailleurs contraire à notre Constitution. Voilà. Allô ?
Oui, oui, on vous écoute religieusement.
Pardon, c'est trop. Vous ne voulez pas que je dise amen aussi.
Non, préfère qu'il y ait une séparation entre eux.
Oui. Donc c'est des choses tout à fait importantes. L'Union européenne, si vous voulez, est un truc dans la logique de Jean Monnet, c'est ce qu'il appelait la tactique des cliquets, je crois. C'est-à-dire, je fais passer des choses sans qu'il y ait réellement débat là-dessus, et puis l'étape suivante, je fais pareil, et ainsi de suite. Non, c'est pas la démocratie, ça, pour le coup. C'est une vision assez technocratique de la société, mais qui finit par poser un problème énorme, à savoir que se crée un fossé de plus en plus grand entre les responsables et les citoyens, et que ce fossé devient un drame pour la vie publique. C'est-à-dire, si vous me permettez de me citer moi-même, j'avais fait un article dans mon diplomatique qui s'appelait « Bonapartisme ou constituante ?» C'est-à-dire, qu'on peut résumer par autoritarisme ou démocratie, si vous voulez. Si on continue comme ça, on aura un système autoritaire. Obligatoire. Et officiellement autoritaire. Il est déjà autoritaire de fait. Il sera officialisé comme autoritaire. Et pour sortir de ma propre citation, un homme comme Hubert Védrine, qui n'est pas considéré en général comme un boutefeu, vient de sortir un livre qui s'appelle « Sauver l'Europe » où il dit à peu près ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire l'Europe sur la base des relations entre les États membres et non plus sur l'idée d'un fédéralisme abstrait qui supprime les composantes. Ça, cette idée, je crois qu'elle n'existe de moins en moins. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, les grandes réussites européennes, je ne sais pas, Airbus, le CERN, Ariane... sont des composantes interétatiques, mais pas fédéralistes. Voilà. Donc, je crois que la parole doit revenir au peuple qui diront, et effectivement, dans le cadre d'une constituante, inévitablement, on parlera des relations intra-européennes. C'est normal, mais sans qu'elles soient imposées, comme c'est le cas depuis des décennies, sans qu'au fond, on ait en parler. Bon, je vous citerai une fois de plus... le discours de Mendès-France lors du traité de Rome, puisque Mendès-France a voté contre, on ne peut pas dire qu'il soit un antidémocrate, hein. Bon, ni anti-européen. Bon, il a voté contre parce qu'il estime que c'était antidémocratique. Voilà. Et nous sommes revenus à ça, et je crois qu'il est grand temps d'en tirer les conséquences, sinon on court à des catastrophes.
Et des associations comme la vôtre font partie des outils que l'on peut utiliser pour revenir, redevenir un peu acteur.
C'est notre ambition, en tout cas.
Je rappelle à nos auditeurs l'adresse. On peut vous retrouver sur www.pouruneconstituante.fr. Là, on pourra avoir tous les détails. Hein. Qu'est-ce que l'association, qu'est-ce que la démocratie, les constituantes et les constituants, les cercles locaux, les cahiers d'exigence, tout ce que vous nous avez un peu évoqué. Et votre pétition présidentielle non constituante, oui, est en ce moment sur change.org.
Et comme une citoyenne.
J'ai une petite question à poser, si c'est possible, à Monsieur Bellon, c'est Anne Laroutis. Moi, à l'époque, j'avais voté pour oui à l'Europe, tout simplement parce que j'avais envie de me déplacer dans l'Europe et c'était le truc qu'on nous disait quand on était un petit peu plus jeune.
Honnêtement, et maintenant, j'entends très mal. Hein.
Ah, non, je disais que j'avais voté oui à l'Europe à l'époque, tout simplement pour pouvoir mieux me déplacer. Vous m'entendez ?
Très mal.
Ah. Attendez, on va approcher. Bon, voilà.
Attendez.
Oh. Voilà.
C'est juste une question technique.
Oui, mais ça va venir. Voyez, normalement, c'est bon là.
Est-ce que c'est bon pour vous ?
Ah là, c'est mieux. Oui.
Ouais. Donc c'est Anne. C'est vrai que à l'époque, j'avais voté oui à l'Europe, tout simplement pour des facilités de déplacement. Après, je l'ai regretté parce que tout simplement, j'avais pas pris le temps de lire. correctement les textes, etc. Et effectivement, j'ai voté, moi, au niveau de ce que j'entendais des grands médias. À l'heure actuelle, est-ce que la question des médias ne vous pose pas des soucis pour votre parole?
Alors, la question, je le disais moi-même, par exemple, notre pétition, on n'a eu aucun écho dans les médias, et malgré cela, elle poursuit son chemin gentiment. J'aimerais qu'elle le poursuive plus violemment, mais bon, c'est comme ça. Je dois dire, la question des médias est une question clé de la démocratie. Et tous ceux qui se sont intéressés à la démocratie depuis des siècles ont posé la question du droit d'expression, de la diffusion des idées et des contradictions nécessaires. Parce que qui dit démocratie dit contradiction. Si tout le monde pense pareil, on n'est pas en démocratie. Hein. L'idée du consensus, a priori, non. La démocratie, c'est des pensées qui s'opposent, et puis ensuite, on tranche parce que c'est la vie, il faut trancher. Mais il y a toute la question du débat, des contradictions, des contre-pouvoirs, etc. etc. Et les médias font partie de ce débat. D'ailleurs, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, dans les textes du Conseil national de la Résistance, il y avait la question des médias, bon, qui petit à petit a été laissée à volo. Et puisque nous parlions tout à l'heure du traité constitutionnel européen de 2005, il y a une chose extraordinaire, c'était l'extraordinaire unité de toute la presse pour dire c'est oui, on ne peut pas penser non. C'était absolument sidérant.
Il fallait dire oui, ça c'est clair.
Mais je cite toujours cette phrase incroyable de Cavada, je ne me rappelle plus son prénom, Jean-Michel, enfin
bon. Jean-Marie.
Jean-Marie. Cavada, qui a dit textuellement, ceux qui sont contre le traité constitutionnel devraient regarder les photos de Auschwitz. Alors, au-delà du côté comminatoire inadmissible de cette phrase, je trouve qu'utiliser le martyr pour légitimer une absence de débat, c'est odieux. C'est positivement odieux. Or, ce genre de phrase a existé. Bon, et je peux en citer d'autres, mais celle-là m'est quand même restée en mémoire parce que je la trouve atroce. Donc, il faut que ce débat ait lieu, et pour qu'il ait lieu, effectivement, il faut une presse pluraliste, il faut de la presse libre, il faut... il y a très peu de presse libre aujourd'hui. Il y a quoi? Il y a le Canard enchaîné, il y a le Monde diplomatique, et puis dans les journaux Internet, des choses comme Mediapart, mais... Bon, pour le reste, c'est d'un conformisme affligeant.
Il y a des web radios aussi, vous savez.
Oui, non, mais je parle sur le plan national. Alors, sur le plan des radios locales, donc il y a heureusement d'ailleurs tout un réseau de radios. Nous travaillons à Paris avec Radio Aligre, qui est une des dernières radios libres sur Paris. Notre cercle de Nantes travaille avec Jet FM, qui est une autre radio du même genre, mais sur la région nantaise. Bon, aujourd'hui, il y a la vôtre, bien entendu. Je pense que on peut peut-être s'appuyer sur ce réseau-là pour redémarrer quelque chose qui ressemble, à une information pluraliste et à des lieux de débat.
Puis on a quand même des moyens de communication aujourd'hui avec le web qui montrent que, justement, ça permet de faire changer...
Alors, le jeu
des cartes, regardez un petit peu les élections, ce qui se passe. On ne vote plus forcément pour qui on nous le demande. On peut discuter et décider de faire des révolutions aussi. On a parlé beaucoup des printemps arabes, par exemple, qui sont,
nés
sur Internet. Ils n'ont pas eu besoin des médias traditionnels pour le faire. Il se passe quelque chose au niveau des médias, de la communication.
Il se passe incontestablement quelque chose dans l'opinion. Je crois que c'est inévitable, tous les dérapages, ce genre de choses, où c'est à la fois un lieu d'information, de confrontation, et pour certains, un lieu de défoulement.
Sur Twitter.
Twitter, ou Facebook, ou des choses comme ça, mais c'est pas obligatoirement, Je dirais que c'est un dégât collatéral, comme on dit de nos jours.
Oui, c'est ça. Voilà. L'important, c'est que les messages passent et que les gens puissent s'organiser, organiser Absolument. Des choses. Vous-même, entre citoyens, maison des citoyens, tout ça, vous utilisez beaucoup le net pour pouvoir communiquer.
Oui, bien sûr.
Et donc, c'est quand même un outil utile pour la citoyenneté. André Bellon, je vous remercie pour votre discussion. Je rappelle, hein, pour une constituante, je donnerai les liens sur Facebook, sur la page Facebook de la station, afin qu'on puisse vous retrouver sans problème. Très bonne journée, à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est le Social Club. On continue hein, dans un instant. Après un peu de musique, on a beaucoup parlé là. Mais c'était très intéressant avec l'association pour une constituante.
T'as choisi l'autre, l'autre que moi, avec sa grande gueule de riche, ses grands airs d'un bourgeois. Quand il parle, c'est immonde. Regarde, il n'a pas besoin de toi. Il te comblera de peine, toi tu le couvriras de joie. Oh, ça c'est comme voir la haine, c'est prendre du feu du roi. Et moi, qu'est-ce que je fous là-bas? Bah, je reste quand là, à pleurer nos nuits d'amour, tel l'infirme ou le soldat, à te chercher nuit et jour, dans les rues ainsi qu'une croix. Mais tu m'aimeras. T'es ma femme, fidèle comme une ombre. Hier t'étais ma flamme, maintenant t'es à tout le monde. Tu voulais me faire des mioches, maintenant t'as changé de toit. Et plus vite qu'un de toi. Et ça vraiment je trouve ça moche. Pour moi l'amour a des cheveux blonds. Pour moi l'amour n'a que tes gestes. Alors, j'ai l'air d'un con, moi, quand tu déambules sous sa veste. Sais-tu qu'il te jettera comme cette vieille chemise qui est même pas vraiment belle, mais que tu portes dans ses draps. Oh, mais tu l'aimeras. Mais tu l'aimeras. Tu l'aimeras. Et tu l'aimeras.
C'est bien, t'as l'air heureuse, hein. Épanouie du haut de tes trente glorieuses, je te vois porter ton regard sur lui comme celui que j'ai connu autrefois. Dire qu'hier encore tu me parlais avec une autre voix. Alors comme ça c'est coup de foudre. Pour toi c'est le prince charmant et lui le coup de foudre. Les premiers jours t'aveugles et l'artifice ne dure qu'un temps. Regarde-moi dans les yeux et regarde-le dans 30 ans. Mais tu l'aimeras, bah oui, et ça je pourrais rien changer. J'ai le cœur lourd à te foncer, finir ta vie dans ses bras. Il exaucera certains de tes vœux et t'offrira du paraître. Partirais-tu vraiment ce que tu veux alors qu'on parlait de voir naître? Mais vas-y, ne te gêne pas, surtout ne le regrette pas. Non, je t'ouvrirai un peu plus à chacun de mes pas, ouais.
C'est le groupe Spleen qui nous chante ça. On en... Mon micro est en train de partir. Je ne sais pas si c'est un coup des anti, des anti-démocrates. On m'entend de moins en moins tout d'un coup. Alors, c'était très intéressant cette discussion avec Monsieur Bellon. Avant de pour clore l'émission dans notre dernière partie, j'aimerais quand même vous poser quelques petites questions. Et puis c'est surtout Nicolas qui aimerait qu'on parle du fer citoyen.
Oui, le fer citoyen. Ça peut être par exemple les médias participatifs comme les web radios, les web TV où les citoyens, les lycéens sont mis à contribution. Peuvent également quand je dis mis à contribution, c'est qu'ils peuvent jouer au petit reporter tout simplement ou suggérer des sujets. Également le monde des AMAP, des petits producteurs, des associations qui défendent l'éducation populaire, les jeux coopératifs, également le monde des Fab Labs, donc des pour des pouvoir fabriquer ces imprimantes en 3D ou fabriquer de la bière artisanale, mais également je sais pas, par exemple, dernièrement sur Marseille, a lieu à l'Iclab Café, mais pas que, au Dar La Mifa aussi, un festival du fer où il y a possibilité de faire, par exemple, de la cuisine en bocaux ou d'apprendre à coudre ou de faire du code. Voilà, il y a des. Quand tout à l'heure j'ai parlé des médias citoyens, il y a également participatifs, il y a également des Media Lab. Media Lab, où il y a également possibilité de faire du transmédia, c'est-à-dire des jeux vidéo aussi en même temps. Voilà, mais il y a également. Sur Marseille, il y a Yes We Camp.
Sur Marseille, il y a quelqu'un qui essaye de lancer aussi en ce moment une espèce de réseau des médias différents et impliqués. Oui. Au niveau de la citoyenneté. Alors, je ne l'ai pas en tête, là, hein, je n'ai pas retenu.
Ah,
mais ils sont en train de mettre en place quelque chose comme ça. Les médias, je ne sais plus comment.
Je crois que c'est médias participatifs, mais je ne sais plus.
On trouvera ça, on vous en parlera.
On trouvera le lien. Voilà.
Social Club, de toute façon, ça démarre à peine. Hein. Ils sont juste en train de commencer à monter ce petit réseau des médias différents, indépendants. Voilà,
Mais c'est vrai que c'est une source de richesse, les médias, les makers et tout ça, parce que ça permet de travailler en osmose et en complémentarité. Tout simplement, en montant des projets, on arrive à se fédérer une autre parole que celle qu'on nous impose au grand quotidien.
Voilà, ça change un peu, hein, on nous l'impose de moins en moins. Quoique, quand on voit un petit peu ce qui se profile, on se demande si finalement le citoyen n'a pas envie qu'on lui tape sur les doigts et d'avoir un bon papa, un bien autoritaire qui lui dit à quelle heure il doit aller se coucher, tout ça.
Peut-être.
Ça ressemble un peu à ça quand même.
Peut-être,
hein,
certaines personnes ont besoin d'un père.
Voilà, non mais il y a les deux.
C'est un mix peut-être.
Il n'y a qu'à voir les dernières, les primaires là, à droite.
Ah, et Fillon.
On n'a pas voté quand même, mais enfin, on voit bien que c'est quelqu'un qui incarne une figure un peu patriarcale, qui n'est pas si tendre que ça et voilà, qui est un peu autoritaire.
Qui date pas de ce siècle-là. Non, j'ai l'impression qu'elle a fait un voyage dans le temps.
Oui, mais on a les deux. On a cette espèce de nostalgie. Il y a toute une partie des citoyens qui se retournent vers cette.
Je crois que c'est parce
oui,
que.
La preuve, quand même, 4 millions d'électeurs qui vont se déplacer pour voter pour M. Fillon, c'est quand même un signe. Qu'on ne peut pas négliger non plus.
Ah. Je crois qu'on est à la fin d'un cycle. Malheureusement, il y a un ancien monde qui est en train de s'écrouler et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'avoir des figures de proue. Et puis, il y a un nouveau monde qui se met en place et là aussi, on aura besoin de figures de proue. Mais voilà, il faut choisir les bonnes personnes au bon moment et ça va être bientôt. Voilà.
Non mais c'est vrai qu'il y a les deux. En ce moment, on est en pleine espèce de fracture. Il y a ceux qui veulent se prendre en main.
Exactement.
Arrêter d'obéir, pas forcément, mais arrêter de qu'on nous impose et on veut se prendre en main, on va être responsable de ses actes et de ce qu'on fait. Puis il y a ceux qui aiment bien avoir quelqu'un qui est responsable à leur place.
Ou nous subissons, ou nous sublimons.
Voilà, en gros.
Et dernièrement, il y a eu l'Odyssée des alternatives Ibn Battuta. Qui a été la suite, en quelque sorte, du Tour de France des alternatives d'Alternatiba. Mais ce n'était pas qu'avec l'Alternatiba, il y avait également ANV COP 21. Et c'est un rapport avec la COP 22. Et ça, j'en ai pas beaucoup entendu parler à la télé. Sur
la COP
Internet,
22,
oui.
On n'en a pas trop parlé d'ailleurs.
Voilà, non, okay, ça a été choisi, ça j'ai l'impression, à la télé. Ils ont chacun leur petit scénario. Et alors que sur les médias sociaux, oui, ça a été beaucoup parlé. Il y a eu un film dernièrement aussi, Irinzina. Et donc, cette escale française de bateau qui partait de Barcelone, qui faisait le tour de la Méditerranée, en passant par le port de Gabès en Tunisie, ou alors également en Sardaigne, il y a pu avoir un rassemblement de personnes qui ont fait, par exemple, des disco soupes ou qu'on fait participer d'autres personnes le temps d'un week-end. Et c'est dans le mouvement des friganes, en fait, gratifaria, disco soupe, de l'entraide, de la solidarité.
Des gens qu'on soutient régulièrement. C'est vers chez vous, là-bas, c'est vers Aubagne, qu'il y a un gros mouvement de gratifaria, là-bas. La gratifieria d'Aubagne avec la gratis shop, enfin une boutique gratuite. Ah, fallait écouter le social club.
J'en ai entendu parler, mais je peux pas en parler si je connais, si je suis jamais allé.
D'accord. Non, mais on les a eu souvent au téléphone parce que c'est vrai que.
Je revois ma veille là.
Non, mais on discutait avec eux avec cette histoire que ça rend accro. C'est-à-dire que la dame qui organise ça commençait par une petite gratifieria au bagne, puis après elle s'est prise au jeu, elle est allée voir les incredible, l'edible, les incroyables comestibles.
Incroyable,
elle a ouvert son jardin pour en faire un jardin.
Je l'ai vu une fois cette personne, mais je la connais pas personnellement.
Voilà.
Vraiment,
et dans ce jardin, elle a ouvert maintenant une boutique où on rentre et on peut prendre gratuitement poser gratuitement, voilà, des choses qu'on
veut mettre. Oui, ça s'appelle Annie Pantin.
Oui, voilà, je crois que c'est ça. Et donc, voilà, vers là-bas, ça bouge quand même bien. Je crois que le frigan, vous appelez ça?
Frigan, c'est les gratifériats, voilà, c'est les gaspilleurs, c'est les... Ce sont plutôt, parce que c'est, ça ne veut rien dire. Oui, c'est le vrai partage, la vraie solidarité. Mais bon, on pourrait aussi parler de la solidarité entre nous, mais aussi on peut éviter d'être aussi dans l'entre-soi et penser au fait que l'ethnocentrisme dans le monde actuel pourrait l'éviter. Et actuellement, à nos portes, il y a également d'autres dommages. Voilà. Mais il y a aussi la solidarité auprès de personnes. Tout à l'heure, je vous ai parlé qui les minorités.
Ah oui, les minorités. Mais j'allais l'aborder, c'est le troisième point.
Les minima sociaux, mais qui sont...
Avant de se quitter.
Qui sont dans un système kafkaïen. Impression d'être dans un film de Ken Loach, en fait. Voilà.
Cette impression de ne pas exister. Ou d'exister en parallèle dans un monde qui avance sans nous. Je parle pas de nous, mais je parle évidemment de certaines minorités.
Les
SDF aussi, tout simplement. On les voit tous les jours dans la rue. Et quand on parle avec eux, le principal problème, c'est qu'on les regarde pas.
Ouais.
On leur sourit pas. On fait comme si ça n'existait pas ou comme s'ils étaient invisibles.
Et ils sont nombreux sur Avignon. Paradoxalement, on est la 7e ville la plus pauvre de France et on n'en parle jamais. C'est vrai que ça paraît choquant, mais c'est ça. Après, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces minorités qui n'ont pas envie de parler de leur pauvreté aussi. Ils ont envie d'être dignes.
Oui, puis on n'a pas envie d'être assisté ou qu'il y ait de la pitié, mais au moins exister, un bonjour, un au revoir, voilà, ce genre de choses.
Ouais, mais qui sont les vrais assistés? C'est ça sur toi.
J'appelle
c'est pas
Freud.
Les fils à papa.
Je reviens dans quelques minutes.
Vous avez 3 heures, monsieur.
Ça peut durer longtemps.
Non, allez, on avait encore quelques points. Alors, la remontée des initiatives, c'est ce que m'a proposé Nicolas.
Les cafés citoyens. Disons que les remontées d'initiatives, ça peut exister ailleurs que dans des cafés citoyens, mais...
C'est-à-dire des lieux où on se parle, où on partage ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire.
On peut construire... Oui, où il y a en fait de l'effervescence. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'osmose, c'est bien.
Oui.
En quelque sorte, de travailler ensemble et de trouver des initiatives qui sont... par exemple l'économie sociale et solidaire, également du monde de
on a
des civic
échos,
tech, c'est-à-dire la technologie citoyenne, l'artisanat,
les éco-quartiers, vous savez, enfin il y a aussi ces développements là, des éco-quartiers ou les habitats participatifs,
les
éco-quartiers, l'habitat participatif également,
ça fait partie un petit peu, on monte ensemble un projet d'habitat à plusieurs personnes, une sorte de petit soit de résidence, soit de...
Des oasis.
Un petit peu des oasis.
Il y a deux associations, une dans le Vaucluse et une dans la Drôme provençale, ou c'est la même, je ne sais plus, mais il va y avoir deux projets d'habitat participatif. prestige dans notre coin. Ouais.
Voilà, alors il y a Étoilie, je sais, du côté de la zone agroparc là-bas. Et puis l'autre, je connais plus, je connais pas le nom. Saint-Jean, peut-être, ou quelque chose comme ça.
Je crois.
Ça.
Vous parliez des colibris tout à l'heure. L'année dernière, il y a eu une formation à distance appelée MOOC. Qui permettait de créer des lieux d'habitat participatif. Il va revenir cette année sous une deuxième version et c'est sur plusieurs mois avec je l'ai fait l'année dernière mais je l'ai pas fini.
C'est le problème des MOOC, hein. Souvent on les démarre mais
Et puis on va avoir aussi un grand rendez-vous qui s'appelle un émerveillement du vendredi le 13 janvier au théâtre du Rempart où effectivement il va y avoir un brassage entre projets socioculturels, projets alternatifs, etc. Et le public, vous êtes conviés à venir nous voir à partir de 20h30.
Le 13 janvier,
voilà.
Au Rempart.
C'est ça.
C'est les émerveillements. Ça avait eu lieu l'année dernière. Hein. On avait déjà eu quelques rendez-vous intéressants. Nicolas, encore un petit mot.
Oui, bah, en fait, je ne sais pas si c'est la conclusion.
Non, pas
encore. Il y a une phrase que j'aime bien, elle n'est pas de moi. Hein. Ouais. Mais soyons dans la convergence des luttes plutôt que dans des huttes.
Voilà. Ouh.
J'ai rien
ça
compris.
C'est lui qui lutte.
C'est pas grave.
Soyons dans la convergence des luttes
plutôt que d'être dans des huttes.
Ah oui, d'accord. Ouais, bon.
Ouais, on refait.
Ouais, ça va, on refera. Vous m'avez amené un magazine là, c'est quoi ça? Les réfugiés, non? Acte
C'est Fatch 2, édité par Tabasco Vidéo à La Joliette, à Marseille.
Et c'est quoi? C'est un petit journal?
C'est tout à l'heure qu'on a parlé de journal de quartier, ça correspond.
Voilà, Fatch 2. Donc là, ils ont mis toute une thématique autour des migrants, hein. Des réfugiés.
Ils appellent les réfugiés,
ouais. Les réfugiés, pardon, c'est plus joli.
Vas-y, Nicolas, parce que c'est plus toi qui l'as amené, mais je crois que aussi c'est visible sur Internet. Il y a le format papier et le site.
Oui, Fatch 2, oui, tout à fait. Ouais.
http://fatch2, F-A-T-C-H-E-2, le chiffre 2.fr.
Et ouais, c'est sur Twitter et Facebook aussi.
Voilà. Voilà, bah, c'est le genre d'exemple dont on parlait tout à l'heure. Il y a des petits magazines comme ça. Vous avez vu le film, je crois que c'est Merci Patron, non, c'est ça?
Oui, avec ça.
Comment s'appelle ce journal? C'est un tout petit truc.
Oui, c'est Fakir. Le Fakir, Monsieur Ruffin, au d'économique d'Aix-en-Provence.
Voilà, donc ce film a fait un tabac, évidemment, mais on voit bien que même le fait qu'il est absolument. Moi, je ne connaissais pas Fakir. Ouais. Très peu de gens le lisent, d'ailleurs, pour dire la vérité. Mais ils ont quand même réussi à faire plier l'autre, là, Arnaud Machin.
LVMH,
voilà.
Il
n'a plus de nom de famille, donc LVMH, c'est devenu un saint peut-être. Non, mais ils ont quand même réussi. Et le film est très bon pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un succès, ce film. C'est que, justement, à travers un organe de presse, même lui, hein, le réalisateur, qui a aussi le rédacteur du Clairon, enfin non, du Fakir, pardon. Je sais pas pourquoi j'appelle le Clairon Fakir.
Quand il s'est exprimé, tout à l'heure on parlait de On n'est pas couché. Quand il s'est exprimé face à Monsieur Gattaz, et il s'est exprimé en tant que patron de presse, et en tant aussi que personne du terrain.
Oui.
Et là, Monsieur Gattaz, je crois qu'il a pas eu les arguments.
Ils ont du mal. Bon, en tous les cas, on voit dans ces cas-là que des petits organes de presse, des petits journaux, en tout cas, ils petits, peuvent avoir quand même un impact. Parce qu'aujourd'hui, ça circule vite l'info et qu'un mauvais buzz, un bad buzz, c'est pas très bon pour une grosse boîte.
Voilà. C'est vrai qu'il faut bien lisser son propos à chaque fois.
Ouais. Il n'empêche que, évidemment, à cette époque-là, les gens ont quand même été virés. Hein. C'est juste un couple qui récupère quelque chose. Et donc, tous les autres employés ont quand même été virés. Ça ne change pas ce problème des licenciements et des plans sociaux. Mais quand même, on y arrivera peut-être un jour à respecter l'humain.
Fralib avec les Scopti 1336 sont arrivés à faire quelque chose. Et dans Aubagne, et j'ai menace à côté, où était, je crois que l'usine est entre les deux. J'ai travaillé à Lipton il y a 10 ans, donc je vois très bien où c'est. Fralib, je me rappelle plus.
Ah, c'est Lipton, c'est ça, ceux qui sont devenus.
C'était Lipton.
Ce sont les employés qui ont repris la société.
Ils
en
ont
fait,
repris, ouais.
Et qui ont fait une Scop.
Exactement, la Scop
Ti. Voilà. Sympa, voilà, des belles exemples. Ils sont très rares, ces exemples-là.
Il y en a
deux. Je crois qu'il y en a deux en France. Hein.
Il y a Biscuit Chou et Jeannette aussi.
Ouais, ils font même de la musique, les Fralibos.
Ah, c'est vrai.
Donc, comme quoi, il y a moyen de faire quelque chose. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est ça, la question, est-ce qu'ils s'en sortent
C'est dans toutes les associations de la ville. Par exemple, dimanche dernier, il y avait Nicole Ferroni. Bon, à chaque fois, je dis des noms, je suis désolé, je place des noms, mais elle était là ce jour-là à Aubagne. Il y a eu le restaurant Propulsé au Soleil, le Présage, porté par l'association Rêve Germé. Il y avait des personnes d'Action Vélo qui étaient là. Et il y avait des boîtes de thé. Aussi.
C'est très bien. En parlant de Ferroni, on la salue parce que c'est elle qui nous a fait notre jingle et qui appelle nos auditeurs, notre sphère, l'osmosifère.
Donc, c'est la marraine de tous les.
C'est pas la marraine, mais elle nous a fait des petits jingles, elle nous a fait des petits trucs très 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 sympas et c'est vrai qu'elle dit bonjour l'osmosifère. Un truc dans le genre. On a fait le tour, je crois, un peu de notre programme du jour. Oui, on redonne les rendez-vous ?
Oui, alors tous les jeudis chez Françoise pour la Maison des Citoyens à Avignon, entre midi et deux. Hein, on fait une trêve des confiseurs. Quand vous viendrez jeudi, il y aura une petite surprise. Et puis le 13 janvier aussi, un émerveillement du vendredi. C'est une grande journée où il y aura plein de surprises et c'est à partir de 16h.
Voilà, ça c'est un joli rendez-vous. À Aubagne, voilà. Est-ce qu'on a des rendez-vous chez vous?
Alors d'abord, si me permettez, je vais parler de Marseille parce que c'est bien institué. Donc de suivre la page fan Maison des Citoyens de Marseille. Donc il y en a un mercredi prochain chez Hervé, un végétalisateur de rue. Et sur Aubagne, en attendant que j'en organise et avec d'autres personnes, donc un facilitateur, un arbitre, quelqu'un qui s'occupe des médias sociaux et un autre qui pourrait prendre des notes et peut-être pas, pourquoi pas nous filmer aussi. Je suis tous les mercredis à Aubagne avec mon association C'est quand qu'on va où, et nous avons une AMAP le mercredi soir à 18h ou 19h. C'est quand qu'on a map.
C'est quand qu'on a map. Voilà. C'est quand qu'on va où. C'est quand. C'est tous les vendredis soirs.
Tous les mercredis soirs à Aubagne. Il y a un site internet, je vous le donne, il n'y a pas de problème.
Une page Facebook.
Exactement.
Arrêtez de dire page fan.
Page communautaire.
Tout simplement.
C'est gratuit.
Le mercredi, hein, c'est ça.
Le mercredi à partir de 18h.
À partir de 18h.
À Aubagne.
Vous nous partagerez ça sur notre page là aussi, Facebook.
Ouais, sans
comme ça, nos auditeurs n'auront plus qu'à cliquer. Vous savez, ils aiment bien faire ça, juste cliquer.
Il y a d'autres associations à Aubagne.
Il y a d'autres associations, effectivement, mais on ne les a pas toutes reçues. Donc, nous, on partage ce qu'on reçoit. La prochaine fois. Rendez-vous le 13 janvier également au Théâtre du Rempart à Avignon. Alors, c'est quoi cette 16h présentation du mouvement Les Citoyens, rencontre avec Robert Branche? C'est toujours d'actualité?
Ah oui, c'est toujours d'actualité. Donc, à 16h, vous pouvez venir. C'est un entrée libre. Vous nous verrez avec Robert. On va vous expliquer ce que c'est que le mouvement Les Citoyens. Et en deuxième partie, à 20h30, il y aura un émerveillement organisé par la Maison des Citoyens du 84 et aussi par la maison d'autres Maisons des Citoyens.
Alternatif Avignon, voilà. Le mouvement Zèbre du Vaucluse. Alors, ça veut dire quoi un émerveillement du vendredi?
C'est une sorte de rencontre entre, dans le jargon des zèbres, c'est entre faiseux et diseux. C'est les faiseux, ce sont des porteurs de projets, donc il y en aura entre 6 à 7. Il faut lire l'événementiel qui est sur la page La Maison des Citoyens 84 pour tout le programme. Mais vous allez avoir du choix, on va dire, dans les projets. Et ça sera entrecoupé de chansons. Voilà.
Petit émerveillement.
Voilà, tout à fait.
À 20h30. Ouais. C'est le 13, hein?
C'est ça.
Un vendredi 13.
Oui.
Waouh. C'est formidable. Bah écoutez, les faiseux, les diseux. Merci. Vous êtes, vous, plutôt faiseux ou plutôt diseux, Anne et Nicolas?
Moi, je suis faiseuse.
Faiseuse.
Et moi, je suis un graineux social.
Ah, pardon?
Un graineux.
Un graineux?
Je sème ma graine.
Ah, d'accord.
Mais un avec pas forcément avec une grosse colère, avec de l'espoir.
D'accord, parce qu'on a des colères bienveillantes. Vous remarquez, c'était bienveillant aujourd'hui, il n'y a pas eu de colère. Hein,
ouais. Oui.
Non, mais on a quand même l'impression, plus on avance, que ces colères ne servent à rien. Quand on casse quelque chose, ça dessert un parti, ça dessert une idée. On n'est pas là pour casser, il faut construire.
Oui, et c'est pour ça qu'il faut faire.
Ou reconstruire sur certaines ruines, parce qu'il y a des choses que c'est pas nous qu'on les a cassées, comme dirait l'autre. Voilà, merci à vous.
Les châteaux de sable.
Les châteaux de sable, par exemple.
Mais on sait où on va.
On l'espère en tout cas. Merci, ben, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se reverra pas avant 2017.
Bonne année, bonne santé.
Si tout va bien jusqu'à là. Nicolas, bon courage, bonne continuation du côté d'Aubagne et du 13. Bravo pour le Social Club Marseille, porter les mouches, tous les petits messages qu'on partage.
Je suis bénévole et on verra si j'aurai un emploi l'année prochaine. On verra bien.
Bah, c'est bien, faut continuer. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'au bout du Social Club. On se retrouvera l'année prochaine pour d'autres Social Clubs avec d'autres rendez-vous, des rendez-vous plus agricoles ou agriculturels, justement, avec le bio, le local. On va parler de ça. On reviendra avec la citoyenneté, on en refera d'autres, je suppose, avec nos amis de la Maison des Citoyens. Et puis, voilà, pas mal d'autres petites choses que l'on découvrira. Je vous souhaite une très belle journée, très belle semaine et une très belle fin d'année, puisqu'on y est. Voilà, à très bientôt.